2 Pierre 2, versets 12 à 22. Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. L'injustice sera le salaire de l'injustice. Ils trouveront leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que défauts et tâches. Ils se délectent de leur tromperie en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont les enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste, mais qui fut repris pour sa propre transgression. Une bête de somme muette fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave et l'esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux d'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du Saint Commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à son vomissement et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, qui est pleine de sagesse, cette sagesse divine, Seigneur, qui nous aide à marcher dans ce monde avec la vérité, Seigneur, que tu nous donnes, qui traduit la réalité de ce qui nous entoure, afin que nous soyons préservés de toutes choses mauvaises et que nous puissions marcher, et Seigneur, dans le bon combat de la foi. Et Seigneur, entendre ta voix qui dit « Entre dans la joie de ton maître ». Seigneur, nous voulons demeurer fermes dans la foi, et cela avec l'aide et la grâce que tu nous accordes au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est un texte écrit par Pierre, qui se trouve dans la Bible. On ne le lit pas souvent, heureusement, parce qu'il n'est pas très, très élogieux. Et il s'agit du chrétien, en tout cas des gens qui ont accepté le Seigneur et qui sont retournés à ces choses. En fait, je vous ai parlé de certains mots qui peuvent être énigmatiques pour vous, comme les gnostiques. Ça, c'est des gnostiques. Et donc, ça, c'est la traduction concrète de ce que donne le gnosticisme, qui est en fait un mélange de croyances. On appelle un syncrétisme. On mélange le christianisme avec le paganisme. Alors, on pense que tout ça, c'est pour l'époque de Pierre. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est ce à quoi je veux vous faire réfléchir dans le cadre des réveils qu'on a commencé cet été. Et ces réveils sont là pour nous réveiller. Le Seigneur veut nous réveiller. Non seulement dans l'histoire humaine, mais aussi dans notre histoire à nous. On a besoin d'être réveillé. Rappelez-vous, le premier amour que vous aviez, il a tendance à baisser, à se traduire en religion, au lieu d'être un réveil d'une relation constante renouvelée avec le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur veut nous rappeler. Donc, ce que je vais reprendre un petit peu ce que j'ai fait rapidement, parce que j'ai passé dans une cellule et j'ai vu que c'était important dans une cellule de maison qu'on puisse que je puisse vous écouter et puis répondre bien sûr plus facilement ce qu'on peut pas faire un dimanche matin à des questions et à actualiser le message dans chacune de nos vies. Le dimanche dernier, j'ai essayé de vous montrer un parallélisme entre au niveau de l'histoire, hein, parce que le christianisme est en fait inscrit dans l'histoire, ce n'est pas un mythe. Contrairement au mythe, l'histoire, elle est vivante. Un mythe, c'est quelque chose qu'on explique, qui n'est pas dans le temps, qui est valable pour tout, c'est une croyance, hein, mythique. Le christianisme, c'est pas ça. La religion, c'est mythique, mais le christianisme est vivant. Jésus est venu il y a 2000 ans. C'est daté. Le Seigneur va revenir. On est dans une histoire. C'est pour ça qu'il faut inscrire la Bible dans une histoire. Donc, dans cette histoire, il y a deux choses importantes. Hein. C'est comment on est gouverné dans ce monde, hein, la gouvernance, et la religion. C'est deux choses importantes qui ont préoccupé toute l'histoire humaine, dans tous les temps, tous les moments, toutes les époques, hein, et qui, disons, est quelque chose quand parce que nous sommes dans l'histoire actuelle, hein, du XXIe siècle, et il faut bien comprendre comment les choses sont révélées par le Seigneur, par la Bible, parce que le Seigneur nous révèle les choses. Il ne nous laisse pas sans rien. Les gens se posent des questions, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec les nouvelles élections? Qu'est-ce qui va, etc. Ils sont dans l'angoisse. Nous, on n'est pas dans l'angoisse, on sait ce qui se passe, mais on ne fait pas confiance à l'histoire, on fait confiance au Seigneur, qui est aussi dans notre histoire. Et dans cette histoire, donc, on a d'une part la révélation, la gouvernance, c'est la statue de Daniel, hein, qu'on a vue. La statue de Daniel, bon, c'est pas la seule, mais c'est elle qui nous révèle l'histoire. L'histoire à partir des grands empires. Hein. Donc ce sont les empires, donc c'est la politique. Hein. Comment est-ce que le monde est gouverné? Et ici, ce sont les croyances. Les croyances à partir desquelles je suis parti de cette table des peuples qui a toujours été utilisée. Jusqu'au 19e siècle, comme je vous ai dit, en 19e siècle, on a remis en cause la vérité de la Bible. Et on a tout critiqué, c'est le criticisme rationaliste, mais ce n'est pas à cause de ça que la Bible n'est pas vraie. Hein. Simplement, les hommes ont décidé qu'elle est un mythe. C'est au 19e siècle qu'on a dit, la Bible est un mythe. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ne croyez pas à ça, c'est une histoire. Et donc, dans l'histoire des croyances, je vous ai dit qu'il y a trois... grand peuple, hein, qui, alors c'est très simplifié, hein, si vous voulez chercher, il faut aller beaucoup plus loin dans cette réflexion, mais il y a bien Sem, Cham et Japhet, hein, qui sont les trois fils de Noé, qui ont donné lieu à des civilisations, en passant d'abord par ici Babel, hein, avec Nimrod. Au départ, ils étaient tous ensemble, et c'est à Babel que Dieu les a dispersés, qu'ils ont donné lieu à ces trois entités géographiques, où d'ailleurs après Nimrod, il y a eu Canaan. Donc Canaan fait partie de Cham, et de l'Égypte, et de l'Éthiopie, et de l'Afrique. Donc c'est ce que vous avez ici, Africa, parce que c'est la table en anglais, qui a donné Cham. Ici Sem, c'est le Proche-Orient, le Moyen-Orient, et Japhet, c'est la Grèce. Vous retrouvez d'ailleurs, au niveau spirituel, ces réalités dans Daniel. Quand Daniel prie, Dieu lui envoie la réponse, et on voit un combat spirituel de plus de 20 jours, jusqu'à ce que l'ange qui apporte la réponse à Daniel puisse combattre le prince de Perse. Le prince de Perse, c'est Sem. Et quand il s'en va, il y a le prince de Japhet, qui va rejoindre le prince de Sem pour que l'ange qui remonte dans le ciel puisse rejoindre le troisième ciel. Et donc là, on a des réalités spirituelles qui sont attachées à ces croyances, qui veulent maintenir les gens dans l'ignorance. Et à côté de ça, il y a la révélation, il y a Dieu qui appelle Abraham. Abraham qui, disons, il fait partie du peuple sémite, et là il y a donc le peuple de la révélation. Ici ce sont des croyances, hein, parce que l'homme a toujours cherché d'où il vient, et il sent bien dans son cœur, hein, qu'il y a quelque chose au-dessus de lui, Il fait partie d'un sens qui n'est pas simplement vivre sur la terre et puis mourir, mais il y a un sens spirituel. Donc ce sens, il est recherché en tâtonnant. Et ici, Dieu appelle Abraham et décrit et définit donc un autre peuple. Et donc là, c'est les peuples païens, là, c'est le peuple de la révélation, où Jésus apparaît. Donc c'est le christianisme ici. Et là, on est au XXIe siècle, où effectivement, on hérite de cette filiation de la révélation. Donc le peuple de la révélation, peuple des croyances païennes. Et le peuple qui a synthétisé l'ensemble des croyances, c'est le peuple grec, hein, parce que le peuple grec a mis en avant la raison. Où, avec la raison, il a dit l'homme peut être divin. Il peut retourner à cette notion de devenir divin, comme Dieu. Voilà. Et donc la Grèce a ce pouvoir de communiquer, ce pouvoir de parole, ce pouvoir du logos, ce pouvoir, etc. Et donc c'est lui qui a pris l'ensemble des croyances et les a synthétisées. Et c'est qu'à un moment donné, au christianisme, quand le christianisme est né, la première église, il y a eu un syncrétisme ici, un mélange entre les croyances païennes et le message chrétien. Et c'est à ça que les apôtres, dont Pierre, et ce texte que nous avons lu, a dû faire face. Jean également, tout l'évangile de Jean est écrit contre ce syncrétisme. L'apôtre Paul, n'en parlons pas, il l'a dénoncé. Et aujourd'hui, il y a un nouveau syncrétisme, donc au XXIe siècle, un nouveau syncrétisme, parce qu'à ce moment-là, au temps de Jésus, il y avait un mélange des religions de l'époque. Voyez-vous, le monde, quand on parle du monde, le monde a évolué. Le monde, à l'époque de la Bible, du Nouveau Testament, c'était le monde méditerranéen. Aujourd'hui, le monde, c'est la planète monde, puisqu'on cherche déjà à aller sur Mars, parce que la planète monde est déjà trop petite. Et donc, le monde aujourd'hui, c'est l'ensemble du monde et l'ensemble des croyances. Donc, il a fallu refaire une synthèse. Et il fallait que le bouddhisme, par exemple, ne reste pas en Orient. Il fallait que les gens en Occident acceptent le bouddhisme, les croyances bouddhistes. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait par l'ennemi. Tout ça, c'est un travail. Ça, ce travail, c'est l'ennemi qui le fait pour détruire l'Église de Jésus et pour détruire les chrétiens et pour les amener dans cet état de rejet, pour que nous ne soyons pas rejetés, parce que on peut pas entrer dans le ciel en étant idolâtre. Il est marqué dans l'Apocalypse que les menteurs, les idolâtres, tous ces gens-là seront rejetés. Donc si on veut revêtir la robe blanche que nous avons reçue lors de notre baptême, quand on a reçu Jésus, il faut la maintenir. Il faut maintenir cette croyance dans la révélation, dans les Écritures. Mais régulièrement, l'ennemi veut nous corrompre. Et cette corruption se fait à tous les stades. Et on va tout à l'heure voir que à l'époque de Balaam, qui est un élément concret de cette corruption qui a eu lieu au temps des rois ici, eh bien, ce Balaam, on le retrouve tout au long. Et c'est exactement la même chose qu'a fait Balaam que ce que font ces syncrétistes, que ce soit ici, ça s'appelle le gnosticisme, parce que c'est un mot qui est utilisé pour définir le syncrétisme au temps de Jésus. Et ici, c'est le Nouvel Âge, qui est aussi un syncrétisme, un mélange de toutes les croyances. Et les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui adoptent ce point de vue, en tout cas qui en sont affectés. Et c'est ce que j'aimerais que vous puissiez voir. Je n'ai pas ce matin le slide qui vous donne tous les films, parce que j'en ai cité trois. J'ai cité Star Wars, j'ai cité Harry Potter, mais j'ai vu que sur Internet, il y en a une soixantaine de films. Moi, je ne suis pas cinéphile, il y en a d'autres qui voient les films. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste quelques films. Ça, c'est les films les plus vus, les plus regardés. Mais il y en a une soixantaine, et vous pouvez regarder ça dans vos groupes de maison pour voir quel est le contenu de ces films qui passent dans les salles de cinéma, dans les têtes dans les écoles maintenant, où nos enfants et nos petits-enfants, eh bien, sont habitués maintenant à penser. Vous voyez, c'est une forme de pensée. Tout ça, c'est des croyances, c'est des formes de pensée. Là, c'est la révélation. Et de plus en plus, les gens ignorent la Bible. Et par ignorance, après, ils disent que c'est des mythes. Vous voyez, que voilà, Jésus n'a pas existé, etc. Voilà, donc il faut faire face à ça pour intelligemment interpeller nos enfants. Pas leur interdire bêtement, parce que plus on interdit, plus ils ont envie de voir. C'est l'être humain qui est comme ça. Donc au lieu d'interdire, il faut les aider à discerner. Pour cela, il faut que vous-même, vous puissiez discerner le vrai du faux. Voilà un petit peu la logique pour laquelle je donne cet enseignement. Donc, si rapidement on revient sur ces diapositives. Ah, ça ne marche plus. Ah oui, parce que je n'ai pas allumé. Voilà, donc je dis bien, hein, c'est très simplificateur, mais disons, on retrouve ça quand même quand on regarde plus en détail. Donc vous voyez, là, vous avez le colosse, hein, qui a été présenté à Daniel, enfin, qui a été présenté au roi Nebuchadnezzar, et Daniel en a eu l'interprétation. Et vous voyez ici la particularité de ces empires, hein, donc on est dans la gouvernance politique. Souvent les chrétiens mélangent le politique, le religieux et tout ça parce qu'ils n'ont pas la bonne lecture. Mais la lecture ici, c'est une lecture politique. Ici, c'est Babylone, l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec, l'empire romain. Et vous voyez ici qu'il y a une séparation, ici il y a deux jambes, et c'est la séparation qui a eu lieu en 330 avec Constantin, qui lui s'est pseudo-converti, hein, d'une conversion pas très profonde, et qui a donné lieu à un empire Occident et un empire d'Orient. Donc ici, on a Orient-Occident, il y a aussi Nord et Sud dans certains cas, mais Orient-Occident. L'empire romain a continué jusqu'en 476 et s'est arrêté, et l'empire romain d'Orient a continué jusqu'en 1453 avec l'empire ottoman qui a mis fin à cet empire occidental. Mais l'empire romain a continué ici, en Occident, puisque c'est le Saint-Empire romain germanique, hein, qui a continué avec Clovis, qui a commencé en 476 et qui s'est terminé en 1806. Et avec la Révolution française, il y a eu un autre empire qui s'est mis en place, c'est l'Empire mondial. Et l'Empire mondial, qui lui, ici, se traduit de chaque côté d'ailleurs par un mélange entre du fer et de l'argile, c'est la force d'un fédéralisme. Vous voyez, comme aux États-Unis, comme en Europe, on veut faire un État fédéral qui fédère l'ensemble, mais en gardant le principe de subsidiarité qui est de laisser une autonomie à chaque nation. Et vous voyez ce que ça donne aujourd'hui, l'autonomie, c'est que chacun veut retourner par un populisme à un nationalisme. Donc en fait, il y a une contre-attaque. Aujourd'hui, maintenant, tous les nationalismes remontent, hein, où chacun veut redevenir indépendant. Donc on a fait l'Europe, maintenant on veut de nouveau être une nation indépendante. Et donc là, on voit que cet empire est fragile. Il est composé de force et de faiblesse, ce qui n'a jamais été le cas avant, puisqu'avant, ça a toujours été des empires monolithiques, des empires où il y avait un empereur qui régnait. Aujourd'hui, il y a une force qui est celle du fer et une faiblesse qui est celle de l'argile. Voilà la lecture qu'il faut faire de cette histoire. Et nous sommes dans cette période-là. Oui. Et après cette période-là, alors ça peut encore durer 100 ans, 200 ans, je ne sais pas, la fin réelle, on ne la connaît pas, mais on est dans ces temps de la fin de ce colosse. Et là, il y a une pierre qui va venir. La pierre n'est pas là. Cette pierre qui se détache, qui va détruire cet empire. Et c'est l'épouse, c'est le retour de Jésus avec son épouse que nous sommes et qui va établir le royaume de Jésus sur la terre. Voilà la lecture qu'on peut faire de la gouvernance. Donc voilà un peu les détails que je vous ai donnés. Et là, c'est la lecture religieuse, hein, donc qui est parallèle, hein, qui a toujours fonctionné. Le religieux a toujours soutenu le politique et vice-versa. C'est le sabre et le goupillon, c'est la glaive, le glaive et l'autel, l'alliance entre les deux. Et donc ici, on a l'arrivée de la philosophie, hein, qui est grecque, qui est l'idolâtrie de la sagesse, de la Sophia, hein, qui est une déesse. Donc on retourne au féminin dans le Nouvel Âge parce que c'est la mère, c'est la nature, si vous voulez, qui est élevée. Ce n'est plus le dieu tout autre, le dieu qui nous tire en dehors de nous-mêmes pour l'amener dans sa présence. C'est nous tournons sur nous-mêmes. Hein, et les gens sont obligés de tourner sur eux-mêmes quand ils n'acceptent pas Dieu. Et si nous, en tant que chrétiens, nous retournons à ces choses, mais nous tournons sur nous-mêmes. Et il faut que nous soyons tirés vers l'extérieur, par le Dieu qui nous a sauvés, hein, qui nous a rachetés. Il y a la création, la chute et la rédemption. Et ça, c'est une histoire, c'est l'histoire du salut que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Alors, à partir de ce texte qu'on a lu, vous avez vu dans Pierre qu'au verset 15, il est dit « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. » Ça, c'est intéressant parce que la voie de Balaam, c'est cette voie du syncrétisme. C'est cette voie, donc là, vous voyez, là, Balaam est plutôt par ici, hein, mais cette voie-là de syncrétisme a toujours existé parce que c'est l'ennemi qui, ne pouvant pas détruire Jésus, il n'est pas arrivé, il va chercher à détruire l'Église. Et donc nous sommes ciblés par l'ennemi et il faut le savoir. Balaam était un prophète insensé, il est un prototype des faux enseignants qui s'élèveront dans les derniers jours pour troubler l'Église chrétienne. Les avertissements de Pierre que nous avons lus concernent ceux qui suivent son chemin. Les faux enseignants dont Pierre parle sont des gens considérés comme chrétiens par leur père. Vous voyez, c'est ça le trouble, c'est que en fait, ceux qui sont dans ce gnosticisme ou ce nouvel âge, ce sont des chrétiens, enfin considérés comme chrétiens. On ne voit pas la différence. C'est ça qui est troublant. Pour ça, il faut avoir le discernement pour voir qui est qui. Et Balaam, c'était le cas. Il était parmi les juifs. Les faux enseignants dont parle Pierre, donc, ce sont des chrétiens qui sont cachés avec des faux enseignements. Nous pouvons lire au sujet, au verset 1 du même chapitre, Pierre qui dit, chapitre 2, verset 1, « Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, de même il y aura parmi vous de faux docteurs qui vous introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître, les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. » Vous voyez, quand on lit ça, on dit « Oh, ça ne me concerne pas. » Moi, j'étais comme vous, jusqu'au jour où on s'est aperçu que dans ma propre église, eh bien, il y avait ça. Et là, ça a été un combat qui a failli perdre la vie. C'est un combat corps à corps avec l'ennemi quand on en est là. Donc, il y aura des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Le verset 15 nous mentionne que ceux qui ont suivi la voie de Balaam ont quitté le droit chemin. Donc, vous voyez, le droit chemin, le chemin de la révélation, qu'on peut quitter. Et c'est ça qu'il faut éviter de le quitter. Quelle est cette voie insensée? Et cette voie se produit aujourd'hui dans les derniers jours. Chaque référence à Balaam, dans l'Ancien Testament, est liée au récit des Nombres, hein, dans 22-24, est une condamnation de Balaam, ou ceux qui l'écoutent ou ceux qui l'imitent. Alors il y a de nombreuses références, je pourrais les envoyer par internet, je ne peux pas tout citer. Nombre 31, Deutéronome 23, Josué 13, Josué 24, Néhémie 13, Michée 6, 2 Pierre 2, 15, Jude 11, Apocalypse 2. Vous voyez, il y a tous ces versets-là qui se rapportent à Balaam, qui est un type de syncrétisme, de mélange entre le paganisme et la révélation. Un homme qui a dit « Je ne pourrai faire aucune chose, ni grande ni petite, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu », qui a béni Israël, qui a prophétisé sous l'inspiration du Saint-Esprit, et prophétisé sur la venue du Messie, et condamné dans les Écritures. Vous voyez, il a tout fait comme un chrétien, et en fait, il était condamné. Parce que la voix de Balaam est énigmatique. Elle est énigmatique, elle n'est pas évidente à discerner. Alors voyons ce qu'il a fait, Balaam. Balaam avait une certaine disposition. Enfin, déjà, le mot Balaam veut dire dévoreur. Donc, il porte déjà un nom qui n'est pas très encourageant, comme celui d'Abraham. Il est dévoreur, déchiqueter, détruire. Voilà, ça c'est le nom de Balaam. C'est une puissance destructrice qui est attribuée à des malédictions. Il pratiquait l'art magique. Et cet art était héréditaire. Probablement que son père, son grand-père, tout ça, avait cet art. Donc il faut faire très attention dans votre hérédité, si vous n'avez pas des gens qui ont fait de la magie, parce que vous pouvez être destiné à reconduire cette magie, si vous ne vous coupez pas. C'est pour ça, faites le TQP. Il y en a un qui est en route, là, vous voyez ça, pour vous libérer de tous les arts magiques que vous pouvez avoir comme hérédité ou que vous pouvez être désigné comme héréditaire. Il y a Ruben qui n'est pas là ce matin, il est en Allemagne pour son fils, mais il a été désigné pour être obligé de reconduire dans sa famille. Lui, il a refusé, il a eu tous les problèmes du monde, et encore cet été, il a dû retourner en Afrique pour régler certaines choses. Vous voyez, c'est très subtil. Et là, Balaam était dans cette famille. Il n'était pas appelé prophète ou voyant, c'est un détail, il était appelé comment ? Devin. Balaam était appelé devin. Vous voyez, déjà là, l'énigme commence. Vous voyez, les vrais prophètes sont appelés prophètes ou voyants. Lui, il est appelé devin. Vous rappelez quelque chose ? Les divinations, c'est dans cette croyance-là. La magie, c'est dans cette croyance. Et ici, c'est la Sophia, c'est la sagesse. Et l'apôtre Paul dira, les Juifs cherchent le miraculeux, surnaturel, la magie, et les Grecs cherchent la sagesse. Ceci présente donc un problème important pour Balaam, l'utilisation de techniques interdites et occultes. Dans la Bible, il ne nous est pas dit que ça n'existe pas. Il a dit qu'on n'a pas le droit de les utiliser. De la même manière que dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et Ève, il y a deux arbres. C'est vrai que cet arbre existe, l'arbre de la connaissance, mais tu n'en mangeras pas parce que tu vas mourir. Ils pouvaient le faire. De la même manière, les arts divinatoires, magiques, etc., astrologie, etc., existent. Et on peut y accéder à n'importe quel moment, d'autant plus qu'aujourd'hui, les horoscopes et tout ça, c'est à disposition de n'importe qui, même les iPhones vous le donnent en direct et en automatique. Mais la Bible dit ne pas les utiliser. Vous voyez ? Donc si Dieu le dit, vous voyez, la révélation, elle donne un certain nombre de critères. Si on ne les utilise pas, on se met en danger. Et l'énigme commence déjà là. La divination est interdite aux Israélites dans Deutéronome 18. Elle est une abomination aux yeux de l'Éternel. Elle est qualifiée non simplement de péché grave, ce qui se voit dans Samuel avec Saül, parce que Saül était roi d'Israël. Il est allé voir quand Dieu lui a pu parler. Vous voyez, le danger, c'est que quand on n'entend plus Dieu parler, on cherche à faire parler les autres croyances. Et ils ont des réponses. Sauf que la réponse qui vient de là, ici c'est le troisième ciel, ici c'est le deuxième. Ce n'est pas le même ciel. Donc l'origine des messages ne vient pas du même endroit. C'est une abomination au Dieu de l'Éternel dans Samuel 15, Ézéchiel 13, 2 Rois 17. Mais aussi une marque du faux prophète. Le faux prophète qui fait ça, c'est un faux prophète. Et en Ézéchiel, chapitre 13, Jérémie 14. Je vous en ai toutes ces références, parce que je n'ai pas le temps de m'y attarder. Balaam était principalement un occultiste, expérimenté dans l'art de la magie. Et sa réputation était telle que Balak, le roi qui voulait maudire le peuple d'Israël, parce que vous voyez, là on est dans le politique, dans le politique, il voulait avoir le dessus sur Israël, parce que ça, c'est le peuple de Dieu. Donc, quand il voulait avoir le peuple, il a demandé à Balaam de venir maudire le peuple, parce qu'il connaissait la puissance des paroles de Balaam. Donc, il était connu, s'il en fait appel. Balaam pouvait soutenir des sommes énormes pour ses raisons en service, en raison de sa réputation pour bénir et maudire. C'est Nombre 22. Il était célèbre pour sa compétence en tant que devin et pour son habileté à utiliser les enchantements. Les enchantements, c'est de la magie et de la sorcellerie. Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, Deutéronome 18. Et Balaam n'a donc pas obéi à cette directive, puisqu'il l'a fait. Et même s'il était parfaitement précis dans ses prédictions et ses déclarations, il serait un faux s'il utilise ses méthodes. Mais même si le résultat est juste, l'origine est fausse. Donc méfiez-vous, ce n'est pas parce que l'expérience vous dit « ça a marché ». Aujourd'hui, c'est le pragmatisme. Je me rappelle que Xavier Hégère, qui habitait pas loin, là, son propriétaire était un Français rationaliste, ne voulait pas entendre parler de Dieu. Voilà. Dès qu'il ouvrait la bouche, paf, il se faisait allumer. Il le voyait une fois par an. Je ne sais pas combien d'années il était là, 4-5 ans. Et puis... une année, c'est le 1er janvier, je ne sais pas quoi, il a réglé son contrat de machin, etc. Et puis il a dit, je suis pressé parce qu'il faut que j'aille voir un rebooteux. Je dis, ah bon, vous allez voir les rebooteux mais c'est pas... Là, il a discuté avec lui pour lui montrer qu'un rationaliste ne va pas... Ah oui, mais ça marche, pour ma fille, ça marche. Et donc, le critère, ça marche, ça suffit pour aller voir des rebooteux. Vous voyez, le syncrétisme, ça commence comme ça. Ici, c'est pas si ça marche. Est-ce que Dieu a dit ? Le critère, c'est est-ce que Dieu a dit ? Est-ce que c'est les Écritures ? Est-ce que... Vous voyez, l'obéissance à la vérité, ça passe par l'obéissance à la révélation. Et quand on va vers ça marche, oui, ça marche. Sauf que les problèmes sont déplacés, mais ça, on le voit plus tard. Balaam était donc dans l'erreur, puisqu'il persistait dans l'usage des méthodes défendues. Même sa célèbre rencontre avec l'âne, après avoir prononcé à deux reprises les paroles que Dieu avait mises dans sa bouche à l'âne, il continue. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point, comme les autres fois, la rencontre des enchantements. Dans les deux premières rencontres avec la parole de Dieu, il s'était tourné vers les augures, donc la devination, la divination, comme à l'habitude. Il était dans un certain sens en contact avec le vrai Dieu. Balaam. Mais en même temps, il employait des techniques interdites. Il mélangeait les choses. Il regardait à la nature pour deviner de l'information secrète. On disait que dans le foie, on prenait le foie d'un animal, et dans le foie, on pouvait voir le futur. Voilà. Donc, c'était quelque chose qui était pratiqué par tous les devins. Et Balaam pratiquait cela aussi. Des procédures similaires sont utilisées aujourd'hui. Et des chrétiens, même une femme de pasteur, dont je ne dirai pas le nom, qui travaille toujours dans un magasin où on vend des objets, des bijoux et tout ça. Mais le problème, c'est que les pierres sont énergisées. Vous voyez ? Alors comme elle ne veut pas perdre le travail, elle prend les pierres et les met au dernier étage pour que les... comme si ça changeait quelque chose, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est un compromis. On reste dans le magasin, on vend des pierres comme ça, parce que tous les gens qui viennent, c'est juste parce que pour connaître leur histoire, leur avenir et tout ça. Vous voyez. Donc, on fait des compromis. Après, on s'étonne qu'on puisse avoir des problèmes. Ça, c'est une femme de pasteur aujourd'hui qui est en exercice. Aujourd'hui, ces choses sont utilisées. Dieu a créé la nature... au moyen de sa révélation. Il démontre son existence et certaines choses qu'il concerne à travers sa création. C'est vrai que dans la création, des choses étonnantes, parce que c'est Dieu qui les a fait. Mais on n'utilise pas la création à notre fin pour deviner ou pour faire des choses. Et c'est ça, la magie. Cependant, dans le but de la révélation, c'est de nous conduire dans une relation avec Dieu. Voyez-vous, quand Dieu se révèle à Abraham, c'est qu'il veut une relation avec lui, relation personnelle. Quand on cherche à obtenir une efficacité dans la vie, avoir un job, avoir pourquoi pas un conjoint ou autre, etc., vous voyez, soit on reste dans la révélation et la confiance à Dieu, ou alors on commence à utiliser des pratiques qui sont à disposition maintenant de tout un chacun. Et c'est là que commence le compromis, et commence eh bien, ce qui déjà a commencé avec Balaam et qui continue aujourd'hui, c'est ce mélange de croyances. Il y a un autre énergumène, je dirais, qui se trouve au temps des apôtres. Quelqu'un pourrait me donner le nom, qui a fait la même chose que Balaam. Pardon ? Élimas ? Simon le magicien. Simon le magicien, rappelez-vous, hein, dans les Actes des apôtres, il a vu Pierre et Paul et, voilà, faire des miracles. Et à un moment donné, il a dit aux apôtres, « Dites voir, je vais vous donner de l'argent. Est-ce que je peux avoir le même don que vous ?» Là, vous voyez, on a un nouvel élément dans le syncrétisme, c'est l'argent. Et le pouvoir d'exercer. Simon n'a pas dit « je vais me convertir et je vais arrêter ça ». Il a dit « j'aimerais le même don que vous et je vous donne même de l'argent ». Et là, Pierre et Jean, bien sûr, ont réagi. Et c'est pareil que Balaam. Simon le magicien. Et Simon le magicien, c'est le premier gnostique qu'on connaît dans l'histoire du gnosticisme, donc de ces fables. Alors après, ils inventent, Simon, avec Hélène et tout ça, ils ont inventé des trucs, mais c'est à vous tirer les cheveux de la tête, parce qu'ils veulent cacher leur péché. Mais ils restent dans le monde chrétien. Dans le Nouveau Testament, nous voyons donc Simon le magicien, c'est Acte 8, verset 9. Et dans un certain sens, Simon croyait à la prédication de Philippe concernant Jésus-Christ et s'est soumis au baptême. Toutefois, son intérêt, c'était de faire de l'argent avec des signes et des prodiges qui étaient ceux qu'il aurait une fois qu'il aurait le don du Saint-Esprit. Vous voyez, là, on parle de la profanation. Comme si le Saint-Esprit était utilisé à des fins personnelles. Là, c'est de la profanation du Saint-Esprit. Là, Dieu ne marche pas, bien sûr, heureusement. Il pouvait en effet mêler l'œuvre souveraine du Saint-Esprit à sa magie et vivre encore plus de succès dans le domaine des arts de la magie. Donc ça augmentait sa capacité de puissance. Voyez-vous ? Derrière ça, il y a la recherche de puissance, la recherche d'exercer une autorité, et bien sûr de s'en mettre plein les poches. Dans Acte 8, Pierre dira « Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Voyez-vous, c'est une question de droiture. C'est pour ça que dans la Bible, on parle de sagesse aussi. On n'a pas besoin d'aller chercher des philosophes pour inventer la sagesse. Tous les livres sapiensaux s'appellent « livres de sagesse », Job, Ecclésiaste, Proverbe, etc., c'est des livres de sagesse. Okay, donc, mais c'est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, on ne peut pas la corrompre, on ne peut pas la mélanger avec un amour de la sagesse. On aime Dieu et on respecte Dieu. C'est pour ça que dans Proverbe, il est dit que le commencement de la sagesse de Dieu, c'est quoi ? La crainte de l'Éternel. Voyez-vous, s'il n'y a pas de crainte de l'Éternel, Si Dieu c'est notre copain, ben on va commencer à mélanger, on va faire du syncrétisme, oh, c'est pas méchant. Comment ça c'est pas méchant, hein? Voilà, la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Moi en tant que pasteur, j'ai appris à ne pas faire confiance aux chrétiens, sauf s'ils ont la crainte du Seigneur. Parce que la crainte du Seigneur me donne l'assurance que ces personnes ne vont pas faire des choses dans l'Église qui sont interdites. Mais c'est la crainte du Seigneur. Et la crainte du Seigneur, on le voit aux personnes qui, dans leur conscience, disent « non, je ne touche pas à ça ». Dans le privé, quand ils sont en cachette, quand ils sont tout seuls, quand ils sont au cinéma, quand ils sont, etc. Vous voyez, la crainte du Seigneur, il faut la maintenir, cette crainte-là. C'est quelque chose de délicat, mais il faut la maintenir. Si vous perdez la crainte du Seigneur, vous allez être emporté par la vague de ce nouvel âge. Parce que c'est la crainte du Seigneur, de dire « Seigneur, non, tu as dit, je ne toucherai pas ». Rappelez-vous la position de Joseph, hein, quand la femme a voulu coucher avec lui, a dit non, je ne le fais pas. Et il avait la crainte du Seigneur. Et voyez-vous, Dieu a pu l'utiliser pour des plus hautes fonctions. Parce que la crainte du Seigneur, c'est quand dans le petit, petite chose de la vie, vous puissiez dire non, je n'offenserai pas Dieu. Parce que je sais que eh bien, mon Dieu est vivant et lui ne se mélange pas avec l'ennemi. Parce que tout ce qui est divination, amour de la sagesse et gnosticisme qui est l'adoration de la Sophia, puisque c'est la Hagia Sophia, c'est la Sophia sacrée, eh bien, tout ça, c'est nous mettre en communication avec d'autres choses que Dieu, avec Satan directement et ses anges. À l'instar de Balaam, Simon le magicien croyait jouir des deux côtés, de la foi dans le vrai Dieu pour être jumelé aux pratiques païennes. La confrontation et la dénonciation de Pierre envers Simon le magicien est une prise de position contre de telles pratiques dans l'Église. Le fait que Pierre et Jude mentionnent le cas de Balaam, donc on a lu tout à l'heure, hein, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, eh bien, démontre qu'il considérait que la continuité d'une telle menace contre l'authenticité du christianisme est tout à fait possible. Revenons à Balaam rapidement pour finir. La suite du livre des Nombres démontre qu'après avoir béni Israël, malgré les protestations de Balak, hein, Balak n'était pas content parce qu'il l'avait fait venir pour maudire Israël. Et à trois reprises, il a béni. Donc Balak n'était pas content. Eh bien, Balaam a renversé la foi d'Israël en attirant les Israélites dans le péché. Voyez-vous, c'est là qu'on voit le cœur tordu de ces positions-là. C'est-à-dire, quand il a eu un échec, trois reprises, parce que Dieu ne lui a pas permis, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Balak, attends, j'ai un autre moyen. Là, j'y suis pour rien, je te donne juste le conseil qui va bien. Tu vas faire des fêtes sur les montagnes, sur les collines, et tes filles, qui sont très douées, elles vont attirer les hommes d'Israël, ils vont se prostituer, et hop, les démons vont passer directos, et c'est gagné. Et il avait toujours une ressource magique, une ressource de corruption. Quand le cœur n'est pas droit, on ne s'arrête pas, on continue, même si Dieu n'arrête. Dieu a voulu l'arrêter avec l'âne, il a continué. L'âne a dû parler trois fois jusqu'à ce qu'il comprenne que Dieu ne veut pas ça. Voyons. Dieu était obligé, Dieu est patient, hein. Dieu est patient. Mais à un moment donné, il y a des limites. Mais il a continué à lui donner ce conseil-là qui a été mis en pratique et comme ça, les hommes d'Israël sont passés dans la corruption avec les filles d'Israël. Et ils ont péché, et ils ont été tués, ils ont été déportés. Voilà, tout ce qu'ils ont réussi à gagner. La première et principale erreur de Balaam fut de mêler une certaine connaissance du vrai Dieu à des pratiques païennes et occultes. Sa vie démontrait un mélange profane de l'œuvre du Saint-Esprit avec des techniques interdites dans la Bible. Et dans l'affaire de Péor, donc voilà, on le voit, c'est dans Nombre 31. Les prophètes ont des enseignements, les prophètes aujourd'hui, hein, je parle du 21e siècle, hein, dans les églises évangéliques, entre autres, ont des enseignements pernicieux. Et quand vous êtes averti, vous les voyez. Quand vous n'êtes pas averti, quand vous êtes naïf, hein, naïf, c'est quoi? C'est de croire que la réalité correspond à ce que je pense. Le problème, c'est que la réalité, c'est la réalité. Vous voyez, moi, j'étais comme ça. Hein. On est tous comme ça quand on est jeune, hein, parce que ça fait rêver, c'est beau, c'est bisounours. On aime tous ça, on aime bien Hollywood et tout ça. Et le problème, c'est que la réalité... Elle est la réalité. Et Dieu, il est vrai. Et Dieu nous dit des choses vraies. Et quand on commence à voir la réalité et la vérité, ces deux choses qui sont pareilles, eh ben on sort de la naïveté pour entrer dans la réalité. Et là, on peut effectivement être plus efficace parce que sinon on est entraîné par notre naïveté. Bien que Balaam a fini par refuser la rémunération de Balak, dans Nombre 22, il est clair que l'argent était une motivation importante dans sa vie. Pierre dira, Il aimait le salaire de l'iniquité. Et Jude mentionne que les faux enseignants sont jetés pour un salaire dans l'égarement. C'est dans Jude 11. L'intérêt initial de Balaam, pour le projet de Balak, de maudire Israël, est né lors d'une offre monétaire qui lui a été faite, attirante, nombre 22:7. Et cette offre monétaire l'a aguiché pour accepter le deal. Et Balaam mettait ses arts prophétiques au service du plus offrant à l'époque. Et là, il y avait une bonne offre. Mais le Seigneur Dieu d'Israël est souverainement intervenu pour l'arrêter et empêcher qu'il ait la récompense de sa divination. Cela souligne un autre problème dans ces syncrétismes, dans ces mélanges. Si Balaam était en communication avec Dieu et qu'il connaissait le choix de Dieu de bénir Israël, pourquoi ne s'est-il pas joint à Israël? Voyez-vous, Balaam, il faisait du mélange. Il croyait en Dieu et il croyait dans ses arts divinatoires. S'il était sincère, pourquoi, quand il a vu que Dieu lui interdisait de faire ce qu'il faisait, pourquoi il ne s'est pas joint au peuple d'Israël? Il aurait pu dire « je me repens ». Voyez-vous, la repentance est absolument fondamentale pour changer de voie. Repentance, ça veut dire à 180 degrés, je fais demi-tour. Je me repens. Et il n'a pas fait ça. C'est pour ça qu'il a continué dans sa voie de perdition. Et qu'il a proposé d'autres services, comme je l'ai dit tout à l'heure, en donnant ses conseils de corruption à Balak, pour qu'il utilise les fêtes idolâtres. L'intérêt de Balaam pour le projet de Balak, qui était de maudire Israël, c'était lié à l'argent. Sous l'ancienne alliance, un vrai prophète de Dieu n'opérait pas de façon indépendante du peuple de Dieu. Il est probable que le succès et l'argent étaient sa raison de demeurer séparés. Il aimait l'argent. Et en ce temps-là, Israël était un groupe de nomades méprisés, errant dans le désert, vivant dans des tentes. Et bien que Dieu avait accordé des victoires à ce peuple, il est sorti d'Égypte, etc., le résultat était incertain pour ceux qui ne croyaient pas dans les promesses de Dieu. Voyez-vous, quand on n'a pas la crainte du Seigneur, quand on n'a pas la confiance absolue, que n'importe quoi, vous voyez, Daniel avait la confiance absolue. Quand il était jeté dans la fosse aux lions, il a dit, peu importe, je renierai pas ma foi, enfin, c'est ses amis. Ça montre que leur foi profonde, si vous n'avez pas une foi profonde, si vous avez une foi vacillante, vous êtes tenté par ce que le monde vous offre, qui est aujourd'hui accessible à tous. Avant, c'était des sociétés secrètes. Aujourd'hui, c'est accessible à tous. Vous cliquez sur Internet, vous avez tout ce que vous voulez, vous pouvez tout faire. Et les enfants, à partir des jeunes, dès qu'ils commencent à lire, ils cliquent sur Internet, ils ont tout. Il n'y a plus aucun arrêt. C'est pour ça qu'on est dans une société dangereuse, parce qu'avant, il y avait des barrières institutionnelles, l'Église, il y avait des barrières. Tout ça, ça a volé en éclat en 68, hein, libération des mœurs. Et donc aujourd'hui, on a une société de liberté. L'homme veut être libre, il réclame sa liberté, il la revendique. Mais les conséquences sont que tout ça, c'est accessible maintenant. Et tout le monde peut faire des arts divinatoires, et je sais que les enfants à l'école, après 10 ans, commencent à faire tourner les tables. Et ils font toutes ces choses-là. Et quand vous leur parlez la vérité, le problème, c'est que ça voile, parce qu'il y a un mélange entre la vérité et l'erreur. Et donc on croit à une vérité frelatée qui amène effectivement à ne plus être sur la parole de Dieu. Il est probable que le succès de l'argent était sa raison première de demeurer séparé du peuple d'Israël. Et l'engagement vers le peuple de Dieu pourrait causer des privations personnelles et des pertes. C'est pour ça que John Wimber nous a expliqué qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il était dans une file qui attendait la guérison. C'est vrai que Dieu l'utilisait puissamment. Il y avait 300 personnes dans la file. Ils étaient tous guéris, qu'ils soient aveugle, qu'il soit impotent, peu importe, dans les chaises roulantes, c'était bon. Et puis il arrive à une dame, c'était une sœur catholique, et elle était dans cette roulante, elle dit, qu'est-ce que vous voulez? Elle a dit que je supporte ma maladie. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Deux fois, que je supporte ma maladie. Trois, qu'est-ce que vous voulez? Je supporte ma maladie. Elle n'a pas été guérie, parce que, vous voyez, elle est faite selon notre foi. Dieu respecte nos choix. Qu'est-ce que nous voulons? Dieu respecte nos choix. Il nous a fait libres, il nous garde libres. Nous sommes libres de choisir d'utiliser d'autres moyens que le monde nous offre. Mais quel est le choix? Est-ce que nous voulons, comme Daniel, être de ceux qui craignent le Seigneur et qui l'honorent? Ou est-ce que nous sommes de ceux qui veulent plier les genoux devant Baal et mélanger les choses? Voilà la question qui est posée à l'Église d'aujourd'hui. La deuxième erreur était son amour de l'argent et de puissance. Il préférait la récompense monétaire à celui de l'amour de Dieu et du peuple de Dieu. Il a fait un compromis et il savait être donc bien pour l'amour de l'argent. Dernier point, Balaam était un rebelle spirituel. Rébellion spirituelle amène à ça. Lorsque Balaam entraîna stupidement son âne vers l'ange, qui ne voyait pas, l'âne, il voyait l'ange, lui, il ne voyait pas. Vous voyez, au discernement. Quand vous pratiquez dans les arts occultes, ou vous touchez à ces choses-là, eh bien, votre discernement, eh bien, stop, s'arrête. Parce que vous êtes dans un monde parallèle. Et vous ne pouvez plus discerner ce que Dieu fait, et quand il envoie un ange pour le voir. Quand on mélange les anges, quand on appelle les anges, quand on utilise des anges, etc., quels sont les anges qu'on utilise? C'est ceux du deuxième ciel, ce n'est pas ceux du premier. Ceux du troisième. Ceux du troisième sont soumis à Dieu. Ce n'est pas à nous de donner des ordres. Okay? Mais aujourd'hui, il y a des évangéliques qui le font. Il ne faut pas s'étonner que ces pratiques-là amènent l'incapacité ensuite, après, de discerner quelle est la vérité de l'erreur. Et c'est comme ça qu'on glisse. Balaam, eh bien, même si son âne a vu l'ange, muni d'une épée, lui ne l'a pas vu. Dieu a envoyé cet ange pour l'arrêter, alors qu'il l'avait autorisé auparavant. C'est vrai que Dieu fait des choses folles. Il est dit que Dieu a choisi des choses folles pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses viles pour confondre des nobles, etc. C'est 1 Corinthiens 1:27. Parce que Dieu veut qu'on s'appuie sur lui et pas sur notre sagesse. Alors, oui, notre sagesse, elle voit des choses, mais nous, on est naïfs. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la réalité. Il faut faire confiance à Dieu. Lui, il a créé toutes les réalités. C'est pour ça qu'il faut cette relation avec Dieu. Parce que Dieu, lui, il a vaincu toutes ces créatures hostiles à la croix. Et il faut lui faire confiance. C'est pour ça que c'est faire confiance à Dieu, faire confiance dans nos difficultés, faire confiance dans une situation, lui faire confiance, le remettre à Dieu. C'est pour ça que dans l'Église, on insiste tellement sur la prière. La prière est la base, la prière de la dépendance de Dieu. Dès que nous nous éloignons de cela, eh bien nous glissons vers le compromis. Balaam a offert de s'en retourner, mais il s'est fait dire aller de ce que Dieu a dit qu'il voudrait qu'il dise. C'est-à-dire que Dieu a dû le prendre en main, Balaam. Mais Balaam, malgré tout ce que Dieu a fait avec l'âne, avec tout ça, il n'a pas réussi à lui faire entendre raison. Et Dieu est patient. Dieu est patient avec nous. Dieu est patient avec ses faux prophètes. Et ce n'est pas parce que ça marche que ça veut dire que c'est bon. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est l'aspect pragmatique. Ça a marché. Ben, je suis désolé. C'est pas parce que ça marche, c'est parce que est-ce que c'est dans les Écritures ou est-ce que c'est pas dans les Écritures. Voyez-vous, la réforme protestante a dit l'Écriture seule. Mais il faut le remettre à niveau, hein, chacun de notre vie. L'Écriture seule. Est-ce que l'Écriture me permet de ça ou ne me permet pas? Ça, c'est notre manière de discerner les choses. Donc, cette troisième erreur, c'est de ne pas aimer la vérité. L'amour de la vérité, c'est la vérité. Commencez tout simplement. C'est vrai que j'ai l'habitude de raconter ça. Michel n'est pas là, mais son père, hein, c'était un homme très, très simple, mais très droit et tout ça. Et quand il travaillait, il était imprimeur et des petits morceaux de plomb rentraient. À l'époque, ils avaient des trucs avec des retours de. Les pantalons ourlaient, voilà. Il y avait des petits trucs. Bah, quand il rentrait, il les vidait. Il les ramenait au travail, alors que ça ne vaut rien du tout. Le plomb, vous mettez ça à la poubelle. Mais c'était une question de pratique de la vérité. Voyez-vous, voyez, si vous pratiquez la vérité, ce n'est pas juste de savoir que c'est vrai, c'est de faire la vérité. C'est de vous habituer à dire la vérité. Que vos paroles prononcent des paroles de vérité. Voyez-vous, et si votre conscience ne vous l'habitue pas à cette vérité-là, bah, des plus grosses choses, vous allez les avaler. Voyez, c'est une question de conscience. La conscience, j'aime bien un livre de John White qui explique les principes de conscience et il explique que quand il était petit, ses parents étaient évangéliques, tout ça, ils ont dit, il ne faut pas aller au cinéma, c'est pas bien, voilà, etc. Donc il n'allait pas au cinéma. Et un jour, à 12 ans, il y avait un copain qui dit, ah, il vient, il y a Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, tout ça. Non, c'est Laurel et Hardy, c'est pas Charlie, voilà. Il l'a emmené au cinéma, mais pendant une semaine, il n'a pas dormi. Parce que sa conscience, il disait, c'est pas bien. C'est pas bien, parce que sa conscience était habituée à lui dire non. Voyez-vous. Et au bout d'une semaine, sa conscience s'est calmée, il a pu accepter qu'il n'a pas commis un péché d'aller au cinéma voir Laurel et Hardy. Mais il explique la conscience comme ça. Vous voyez, la conscience, c'est une petite voix qui vous dit stop. Mais si vous l'habituez à ne pas dire non, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir Laurel et Hardy, hein, c'est juste un exemple qu'il utilise pour montrer comment fonctionne la conscience. Si la conscience, vous ne l'habituez pas à vous dire stop, hein, ça ne va rien vous faire. Vous voyez. Et les gens, par exemple, je ne sais pas, qui viennent en retard ou qui viennent d'autres choses, etc. Si votre conscience ne vous dit pas, vous croyez que c'est normal, vous croyez que c'est juste. Dans tous les domaines, la conscience, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous pour nous aider, pour nous rappeler. Et cette conscience, on l'éduque. On lui donne un certain nombre de droits qui vous aident. C'est une aide. Il ne faut pas la mettre de côté. Et ça joue dans la repentance. Après, le mécanisme de repentance, ça joue sur la conscience. Et il remet la conscience à zéro. Elle met les compteurs à zéro. Et après, vous pouvez vivre une vie chrétienne où votre conscience va vous aider à vivre la vie chrétienne. Dieu a prévu un tas de choses qui sont merveilleuses à condition de s'y soumettre. Le jugement, c'est l'endurcissement. Pierre dira... Comme ils ne veulent pas, voyez-vous, quand on ne veut pas venir à la vérité, ça c'est la vérité. Le peuple de Dieu doit vivre dans la vérité. S'il vit dans les compromis, il va suivre le monde. S'il vit dans la vérité, ceux qui sont là, ils seront condamnés par le jugement, par l'endurcissement. Dieu va envoyer un esprit d'endurcissement. Et c'est ça que les chrétiens qui jouent à ça ne se rendent pas compte. C'est qu'à un moment donné, c'est stop. Et tombent dans l'endurcissement. Ce qui fait qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ce qu'on utilise aussi dans le TQP pour expliquer comment on a besoin d'aide quand on rentre dans la prison et qu'à un moment donné, c'est fermé. À un moment donné, on veut sortir de la prison et c'est fini. Le gardien, il a pris la clé, il l'a mis dans la poche. Et là, on est prisonnier. N'attendons pas qu'en jouant sur le compromis, eh bien, ça ne soit plus capable de revenir. Balak, il l'a fait. Balaam, il l'a fait. Simon, le magicien, il l'a fait. Tous les autres cas de figure que vous voyez dans la Bible, ils l'ont fait. Et ça, il faut s'en préserver. La Bible contient d'autres exemples qui ont dit oui à Dieu à contre-cœur, à cause de l'inconfort causé par les plaies d'Égypte. Le Pharaon, qui s'est plié à la volonté de Dieu plusieurs fois. Et derrière, il a changé d'avis. Voyez-vous ? C'est dangereux, ça. Plusieurs fois, Moïse est allé voir Pharaon en disant « Laisse mon peuple ». Il a dit « Oui, vas-y ». Et quand il est parti, il a changé d'avis. Attention, ne changez pas d'avis. Si vous avez dit oui à Dieu, respectez-le. C'est le Dieu de l'univers. C'est le Dieu, craignez le Seigneur. Craignez les paroles. Quand vous avez dit à votre baptême « Oui au Seigneur, je veux mourir à la chair, je veux obéir ». À Dieu et désobéir à Satan et ne pas le suivre, vous avez donné une parole, respectez-la. Et c'est ça qui va vous préserver de l'erreur. qui vient sur le monde, qui est déjà venu. C'est les antichrists, tout ça c'est des antichrists. Il y a un dernier antichrist. Mais les antichrists sont là pour nous amener dans l'erreur. Mais nous, nous devons craindre Dieu. Pharaon s'est plié à la volonté de Dieu plusieurs fois, mais il n'a jamais eu un cœur aimant à faire la volonté de Dieu. Il a finalement péri en tant qu'ennemi du royaume de Dieu. Tout comme Balaam. Balaam, il était tué par l'épée. Dans Nombre 31:8, Pharaon était tué par la mer qui s'est retournée sur lui. Une conversion authentique implique un changement authentique du cœur dont le but est d'aimer Dieu, de tout son cœur, de toute sa volonté, de tout son être, sa parole et sa volonté. Dieu jugera ceux qui endurcissent volontairement leur cœur à sa volonté révélée. Je termine par 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, qui déclare « L'apparition de cet impie ». Donc l'impie en français s'appelle impie, mais en anglais c'est « lawlessness », c'est l'homme sans loi. Et ici, il n'y a plus de loi. Ici, c'est « fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît ». La liberté totale. Voyez, liberté totale, c'est beau hein, d'être naïf à ce point-là. Liberté totale. Alors qu'en fait, on se met dans les griffes de l'ennemi. L'homme impie, l'homme sans loi. Et aujourd'hui, les lois deviennent de plus en plus permissives pour que chacun puisse faire ce qu'il veut, et ce qu'il a envie de faire. Hein, il est libre, il a besoin de Dieu. Dieu n'existe pas, je fais ce que je veux. Okay. Et ben, là, il est dit, l'apparition de cet impie, de cet homme sans loi, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Ceux qui cherchent les miracles, il y en aura, mais ils ne viendront pas de Dieu. Toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'inimitié pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voyez-vous, il y a besoin de l'amour de la vérité, il y a besoin de recevoir la grâce de la vérité qui elle libère effectivement en Jésus-Christ. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Voyez-vous, à un moment donné, Pharaon, c'était fini, bien Dieu l'a envoyé une puissance d'égarement. Parce que tout est sous l'autorité de Dieu, même les démons. Et c'est quand on étudie la parole, on voit que Dieu, il peut utiliser même des démons, donc puissance de l'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice soit condamnée. Que le Seigneur nous garde dans ces temps difficiles, mais passionnants en même temps. Nous sommes dans un monde passionnant, extraordinaire. Moi, je n'aurais jamais voulu vivre à aucun autre moment de l'histoire. Mais, en même temps, les dangers grandissent dans le compromis. Si nous restons fermes dans la vérité, il ne nous arrivera rien. Rien. Comme Daniel, dans la fosse au lion, il ne nous arrivera rien parce que Dieu nous garde. Amen. Mais plus nous avançons, plus restons sur le chemin de la vérité, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de la vérité. Et nous verrons de grandes choses parce que Dieu nous délivrera de grandes choses. Amen. Que le Seigneur soit béni.